Bonjour à tous et bienvenue dans L'Échappée, le podcast qui, toutes les deux semaines, vous fait partir à la rencontre d'un professionnel du vélo. Pour ce 8e épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec Thierry Gouvenou. Thierry a eu une carrière exceptionnelle dans le vélo, que ce soit en tant que professionnel pendant 11 ans, de 1991 à 2002, et puis ensuite chez ASO, le fameux Amaury Sport Organisation, où il est désormais le directeur technique des courses, et entre autres, c'est lui qui dessine le tracé des Tours de France. En plus de ça, il est le président du rassemblement des organisateurs des courses cyclistes et il est membre du conseil d'administration de la Ligue nationale de cyclisme. Donc, comme vous en doutez, il y a beaucoup de sujets qu'on a pu aborder. Je vous laisse voir le sommaire en description de l'épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Thierry et bienvenue dans l'Échappée.
Oui, ben bonjour.
Comment vas-tu ?
Oh, pas trop mal. Bon, le moral n'est pas tout à fait au fixe avec... L'actualité, mais bon, c'est comme ça.
pour donner plus de contexte, on enregistre peut-être à la veille du troisième confinement, le 18 mars. Donc voilà, on va faire peut-être abstraction de ça. Pour revenir un peu plus en arrière, est-ce que tu pourrais nous dire comment es-tu tombé dans le vélo ?
Oui, c'était assez simple. Hein. C'était mon père qui était coureur cycliste. Et donc, dès mon plus jeune âge, je pense, dès mes 3-4 ans, j'allais régulièrement sur les courses cyclistes. Et presque naturellement, je suis venu à pratiquer derrière. Et c'est vrai que si je me remémore un peu ma première jeunesse, j'ai toujours été passionné par le vélo, mais la pratique du vélo, quoi. Et j'étais beaucoup plus enclin à aller faire un tour de vélo qu'un match de foot, quoi. Et puis voilà. Et puis alors, ensuite, ça s'est traduit par une première licence et puis des courses et puis des victoires, ainsi de suite, pour aller jusqu'en professionnel, quoi.
Et du coup, tu as fait quand même 10 ans en tant que professionnel, c'est pas rien. Quel est ton plus beau souvenir en tant que coureur ?
Oh, c'est toujours difficile de lister, mais c'est vrai que bon, la première participation au Tour de France est quand même un moment assez exceptionnel. J'avais eu l'occasion, en plus, dès le premier jour, d'être dans l'équipe du vainqueur du prologue avec Chris Bormann en 94 à Lille. Donc, dès mes premiers kilomètres dans le Tour de France, il a fallu que je défende le maillot jaune. Donc ça, quelque part, ça reste un moment très, très fort. J'ai aimé aussi tous mes Paris-Roubaix. J'ai eu la chance d'être équipier de Gilbert Duclos-Lassalle lorsqu'il a gagné ses deux Paris-Roubaix. Donc ça, c'était des moments forts. Personnellement aussi, j'ai eu des bons classements sur Paris-Roubaix. Donc oui, ça fait partie des grands souvenirs, mais il y en a d'autres. Et puis il y a des fois des petites victoires dans des épreuves moins importantes qui vont faire plaisir aussi et qui vont marquer une carrière ou des amitiés. Bon.
Comme quoi ?
Par exemple, on a fait des fois, j'ai vu des fois être équipier pour des leaders et où on n'était pas très nombreux et on avait eu beaucoup d'abandons et on avait réussi à gagner des courses. Et ça, c'est des moments forts, quoi, lorsqu'il faut vraiment avoir une grosse cohésion pour pouvoir l'emporter. C'est des moments forts. Je me souviens comme ça me revient, un Poitou-Charentes avec Pascal Lens, Laurent Beuzot. Oui, ça avait été fort.
Et toi qui as été au cœur du cyclisme professionnel depuis 30 ans maintenant, qu'est-ce qui a changé le plus entre les années 90 et aujourd'hui ?
Ouh là là, c'est un vaste sujet. Je pense qu'on ne va pas
le plus.
Le résumer en une phrase. Et il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Je vais peut-être passer pour un, entre guillemets, vieux con en parlant comme ça, mais je pense que le cyclisme s'est énormément professionnalisé ces dernières années et ça a perdu énormément en convivialité. On voit bien qu'au sein du peloton, c'est plus la même ambiance qu'avant. Avant, à mon époque, bon, on prenait le temps de discuter les premiers kilomètres et il n'y avait quasiment jamais d'attaque avant le 80 ou 100e kilomètre. Et puis, on prenait le temps de discuter et forcément de dire des conneries aussi et de s'amuser. Et je crois que tout ça, ça a été perdu. Je pense qu'aussi, on passait beaucoup plus de temps en course. On faisait beaucoup, beaucoup plus de courses et on ne faisait pas toutes les courses à fond. Et donc, ça nous permettait d'avoir des moments de détente et de bons moments aussi dans le peloton. Et je crois que ça s'est perdu. Alors, il y a peut-être plusieurs raisons. Hein. Bon, il y a le côté professionnel, c'est sûr. Il y a aussi le côté plus international du cyclisme. Avant, on courait beaucoup entre Français, Belges, Italiens, Espagnols, et puis c'est tout, quoi. Et tout ça fait que bah, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont changé en 30 ans, quoi.
Et à l'inverse, qu'est-ce qui est similaire aujourd'hui?
Oh, bah, je pense que ce qui est similaire, c'est l'engagement des coureurs. Voilà, il faut toujours s'engager à fond. Il faut toujours être à 100% pour pouvoir espérer remporter des étapes. Lorsqu'on regarde l'abnégation de Roglic sur le dernier Paris-Nice, bah, ça, c'est toujours l'ADN du coureur, c'est d'être courageux. Et ça, c'est important. Ces choses-là ne changeront jamais, je pense, parce qu'on est dans un sport qui est hyper exigeant.
Et après ta carrière, du coup, tu rejoins assez rapidement ASO, je crois, quelques années après avoir raccroché le maillot.
Oui, alors ma dernière saison en tant que professionnel, c'est 2002. J'écourte un peu ma dernière année pour faire une formation, pour devenir responsable de magasin de sport. De suite, après cette formation, j'entre dans le métier de vendeur dans les magasins de sport. Et puis très vite, je m'aperçois que ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai envie de faire. Et puis, au moment où je commence à regretter ce choix, voilà, il y a des gens d'ASO qui m'appellent pour savoir si je voulais postuler un poste chez ASO. Et donc, oui, clairement, j'ai postulé. Donc ça, c'était à peu près un an, oui, un tout petit peu plus d'un an après ma carrière. Et puis, voilà, j'ai été embauché chez ASO un an après ma carrière.
Alors, ça va peut-être être compliqué, mais est-ce que tu peux nous faire une présentation rapide de ce que fait ASO dans le vélo?
ASO, oui, alors je pense que c'est le plus grand organisateur de courses cyclistes, ça c'est clair. Alors, bien sûr, on a le Tour de France, on a des grandes classiques comme Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix, des grandes courses à étapes comme Paris-Nice, le Dauphiné, mais aussi on a des courses à l'étranger. On a des courses au Moyen-Orient, on a des courses, des critériums en Chine, au Japon, on a des courses en Norvège, etc. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de courses à préparer. Et puis aussi, ces dernières années, on a tout un volet de cyclisme féminin qui progresse énormément. Donc, c'est vrai qu'on a de quoi s'occuper tout au long de l'année. Et on est quand même quelque part des professionnels de l'organisation cycliste.
Et ça représente combien d'employés ?
Alors, on est une grosse trentaine, 35 à peu près, à faire que du cyclisme, où on ne s'occupe vraiment que du vélo. Et puis à côté, il y a des services qui sont transverses, on appelle, qui peuvent s'occuper de différents sports. Et là, la société, il y a à peu près 250 personnes, mais là, ça comprend le Dakar, ça comprend les marathons, ça comprend du golf, etc. Mais la partie cycliste, c'est quand même un groupe assez restreint.
Et donc, quand tu es arrivé chez ASO, quel était ton rôle et comment ton rôle a évolué jusqu'aujourd'hui?
Alors, je suis rentré dans un rôle de responsable service, responsable sportif adjoint. Voilà, au début, bien sûr qu'il y a beaucoup d'apprentissage, hein, mais on commence assez vite à tracer des parcours et puis après à s'occuper avec les relations avec les équipes. Et puis en course, en général, lorsqu'on arrive comme ça, on prend le rôle de direction, on est adjoint à la direction sportive, et on est en général régulateur. Et là, donc pendant plusieurs années, ben, j'ai fait mes armes sur différents types de courses. Et puis voilà, les échelons, ben, j'ai franchi les différents échelons, et puis maintenant, je suis responsable du service sportif chez ASO. Pour vraiment expliquer l'organisation, si on veut, dans la partie cyclisme, il y a trois directions. Il y a la partie sportive, dont je suis le responsable. Il y a une partie collectivité qui est en relation directe avec les villes, les départements, les régions. Et puis, il y a une partie beaucoup plus technique qui s'occupe de ce qu'on appelle les sites, site départ, site arrivée, sécurité sur le parcours. Et ces trois services-là sont chapeautés par Christian Prudhomme et Pierre-Yves Tour.
Et donc là, c'est pour toutes les courses ASO ou pour le Tour de France spécifiquement?
Toutes les courses ASO, ça fonctionne comme ça.
Donc toi, ton rôle est sur toutes les courses?
Oui, alors après, voilà, dans mon équipe, on est 10. Donc il y a 8 anciens coureurs. Et on se dispatche le calendrier en fonction des appointances, quoi. Et puis voilà. Donc, je ne vais pas sur toutes les courses. Je ne vais pas sur toutes les courses. Je ne sais pas toujours tout ce qui se passe sur toutes les courses, mais j'ai un œil un peu de superviseur.
Et donc, quelles sont tes responsabilités principales?
Déjà, c'est le choix des parcours. Ça, c'est clair. Christian Prudhomme va, par exemple, sur le Tour de France, choisir les villes, ville départ, ville d'arrivée. Puis après, il me demande de tracer un parcours entre ces deux villes. Donc là, ça, c'est la responsabilité de... C'est ma responsabilité pour le Tour de France et de mes collègues sur les autres épreuves. Et puis après, on a pas mal de relations avec les équipes, les engagements des équipes, le suivi de leur participation. On a aussi une grosse relation avec les instances, que ce soit la Fédération, la Ligue nationale en France, les fédérations étrangères, l'UCI. On a beaucoup de relations avec les arbitres. Donc, c'est assez complexe.
Donc, toi, par exemple, quand tu as une ville de départ, une ville d'arrivée pour une étape du Tour de France, déjà, combien de temps à l'avance tu prépares ça? Et concrètement, qu'est-ce que tu fais pour préparer ce parcours?
Alors, ça va être extrêmement variable, hein. Il y a des endroits qu'on va connaître parfaitement bien, et notamment les Alpes, les Pyrénées, où honnêtement, on n'a pas besoin d'aller beaucoup sur le terrain pour tracer des étapes, parce qu'on y est souvent, on y est tous les ans avec le Tour, mais on y est aussi avec le Critérium du Dauphiné, ou des fois avec Paris-Nice, en bordure des Alpes. Donc, pour ces étapes-là, en fin de compte, on ne va pas y passer énormément de temps. Par contre, il y a des fois, on va dans des régions qu'on connaît moins bien, ou alors, où, lorsqu'on cherche des choses vraiment spécifiques, là, ça peut demander beaucoup plus de temps et ça va être un travail en amont au bureau où on va aller rechercher sur des cartes, sur des logiciels, des possibilités qu'on va aller voir sur le terrain et puis qu'on va peaufiner et qu'on va essayer d'améliorer et puis pour jusqu'au moment de trouver l'étape qui nous convient, quoi. Et ce genre d'étape, ça, voilà, ça, c'est plutôt en ces dernières années, ça nous a occupé sur les massifs intermédiaires. Lorsqu'on va dans le Jura, dans le massif central, c'est des endroits où le Tour de France n'allait pas trop auparavant. C'est des endroits qu'on essaye de peaufiner au maximum où on cherche des opportunités de parcours, quoi.
Et quand tu dis on va sur le terrain, c'est vous y allez en voiture ou vous prenez quand même les vélos?
Alors, même si je pratique encore le vélo régulièrement, non, ça, on le fait en voiture. Et on a quand même des appareils qui arrivent à nous montrer la difficulté. Non, mais voilà, on est ancien cycliste, on a gardé, je pense, encore l'œil du cycliste pour savoir quand est-ce que ce sera difficile ou pas, lorsque c'est réalisable ou pas, lorsqu'il peut y avoir des dangers potentiels ou pas. Ça, c'est important.
Il y a pas mal d'anecdotes que je lis sur le Tour de France qui fait détruire des ronds-points ou des choses comme ça. Et je sais que le matériel urbain, c'est un problème croissant pour les courses de vélo. Comment vous gérez ça pour les étapes? Quels sont votre potentiel d'action?
Bah, clairement, je pense que c'est un fléau pour les courses cyclistes, hein. Les aménagements urbains, c'est vraiment extrêmement dangereux pour les courses cyclistes. Puis il va y avoir un paradoxe qui pointe en ce moment, c'est que avec notamment le Covid, beaucoup de gens se sont rabattus sur le vélo. On voit de plus en plus de gens pratiquer le vélo dans les grandes villes, et les villes du coup aménagent les routes pour laisser de la place aux cyclistes. Mais lorsqu'on arrive avec une course de vélo, et ben ces aménagements-là quelque part nous perturbent. Et je pense que ça va être un des grands défis des prochaines années, c'est de continuer à pouvoir arriver dans les centres-villes à cause de ces aménagements. Alors, lorsqu'on a des étapes, en général, sur le parcours, on demande rien. Hein, on fait en sorte de passer aux endroits où on pense que c'est possible de passer. Par contre, il est clair que dans le final des étapes, et notamment les étapes... on suppose qu'elles finiront au sprint, on est amené à enlever des aménagements parce qu'il n'est pas possible de faire passer un peloton de 170 coureurs à 75 à l'heure au milieu d'îlots, au milieu de terre-plein.
Et ça, c'est valable pour toutes les courses ou principalement le Tour de France?
C'est surtout valable pour le Tour de France. Et pour les autres épreuves, eh ben on essaie toujours, en relation avec la collectivité, de trouver la meilleure solution, quoi. Celle qui occasionnera le moins de travaux et qui apportera quand même un bon niveau de sécurité, quoi.
Et donc là, on est en mars 2021. Est-ce que l'édition 2022 du Tour, elle est déjà tracée, ou là, vous êtes en train de travailler sur 2022, sur 2023?
Alors, 22, on a déjà le départ, hein, parce que c'était prévu, ce sera à Copenhague. Donc, voilà, les trois premières étapes au Danemark sont prêtes. Elles ont même été présentées. Et puis ensuite, là, lorsqu'on est au mois de mars, alors on commence là à voir le puzzle se construire. Voilà, Christian Prudhomme, je commence à choisir ses villes les unes après les autres, j'ai envie de dire, où il a déjà ses temps forts du Tour de France 2022. Et puis, on commence à échanger, mais il n'y a aucune reconnaissance encore de fait sur le terrain. On va attendre, en grosso modo, le Tour de France 2021 pour nouer les derniers contacts avec les villes. Il y aura une confirmation dans la première quinzaine d'août. Et à partir du 20 août, 25 août, on ira en reconnaissance. Et tout devra être bouclé pour le 25 septembre. Donc, en gros, on met au maximum un mois à faire les trois quarts du Tour de France.
C'est rapide. Je pensais que ça se préparait.
Oui, c'est rapide. C'est rapide. C'est la plus intéressante du travail, mais c'est hyper rapide et hyper court dans la saison.
Et toi, quelles sont tes considérations les plus importantes quand tu traces les étapes?
Voilà. Clairement, la sécurité, bien sûr. Et puis après, le côté sportif. Alors, j'ai bien conscience que ça ne sert à rien d'essayer de proposer 21 étapes super dures. Il faut des moments forts, il faut des moments un peu moins forts, parce que trois semaines d'efforts sur le Tour des France, ça ne peut pas être toujours au plus haut niveau. Donc, il faut jongler avec la difficulté. Et puis, il y a un côté aussi, j'y suis quand même attentif, j'espère, c'est le côté esthétique. Si j'ai une nationale toute moche et puis à côté une départementale avec des jolis petits villages, je vais plutôt passer dans les jolis petits villages. Ça, c'est important parce que le vélo a cet atout majeur et qui le différencie vraiment des autres sports. C'est de pouvoir mettre en avant les territoires. Et puis notre stade, il peut être magnifique. Il n'est pas figé comme un terrain de foot ou un terrain de tennis. Et on peut montrer des choses extraordinaires. Et des fois, ce n'est pas des choses toujours très connues. Hein. Mais ça peut donner des belles images en télé. Et on sait très bien qu'il y a une grande majorité des gens qui suivent, par exemple, le Tour de France ou les épreuves cyclistes sans connaître vraiment le sport, qui s'intéressent tout autant au paysage et à l'histoire.
Et pour ce qui est du profil vraiment des étapes, la distance, la difficulté, est-ce qu'il y a des choses qui se font différemment aujourd'hui qu'il y a 15 ans quand tu as démarré chez ASO?
Ah oui. Clairement, on essaie toujours de s'adapter à la façon de courir des coureurs. Et je pense qu'il y a une quinzaine d'années, souvent dans les étapes de plaine, on rejoignait un point A, un point B sans se poser de questions. Malheureusement, la tactique des équipes ou le niveau qui augmente dans le peloton fait que si on continue de proposer ça, on peut avoir des étapes où il ne se passe strictement rien. Et un bon nombre d'étapes où il ne se passera strictement rien. Donc, on est obligé d'aller chercher des choses un peu différentes sur des routes un peu plus petites, des petites difficultés en fin d'étape pour espérer dynamiser un peu l'épreuve et la course. Et ça, c'est quand même un gros travail. Et je pense que ces dernières années, sur les 10 dernières années, on a quand même essayé de montrer autre chose. Et on s'est aventuré sur d'autres territoires et sur d'autres routes. Alors, ça ne réussit pas à chaque fois, mais il y a des fois où ça a bien réussi. Ouais.
Est-ce que tu as des exemples en tête?
Des exemples, oui. Alors, par contre, je n'ai pas en mémoire les années, mais je me souviens d'une année où on était arrivé à Saint-Étienne. On était parti du côté de Mâcon-Chalon, je pense. Et c'était Alexander Kristoff qui avait remporté l'étape et on avait eu un sprint massif à peut-être 150 coureurs. C'est un peu. Lorsqu'on fait du vélo, on sait que Saint-Etienne, c'est difficile. Et c'est dur à admettre qu'une étape qui arrive à Saint-Etienne arrive au sprint. Et donc, la dernière fois, on a retravaillé notre parcours de A à Z. Et là, dans le final, on a vu une grosse attaque de Alaphilippe avec Thibaut Pinot, et qui n'ont pas pu aller rechercher des Gent, mais qui sont allés quand même chercher des temps au classement général et reprendre le maillot jaune. Mais ce genre d'étape, alors je pense qu'elle a été magnifique, elle reste dans les esprits, surtout des supporters français, mais il faut aller vraiment fouiner dans les petites routes pour retrouver des difficultés et proposer ce genre de parcours.
Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des étapes où sur le papier, tu t'étais dit « ça va être génial, ça va être un beau spectacle » et ça a été un peu décevant?
Oui, bah oui. Alors souvent, entre nous, on cite par exemple une étape que j'avais aussi un peu tracée différemment en Bretagne, qui devait arriver à Quimper, et puis en fin de compte, qui était quand même une bonne accumulation de côtes. Sauf que ce jour-là, il n'y a pas eu de course. Et à 10 km d'arrivée, j'avais encore 100 coureurs ensemble. Et c'est vraiment au tout dernier moment que le peloton a explosé. Et au final, bon, ça fait un grand vainqueur parce que c'est Peter Sagan, mais la course n'avait pas été à la hauteur de mes espoirs ou de mes espérances. Et, mais ça n'empêche que si je devais retourner à Quimper, je retenterais un peu le même genre de parcours parce que voilà, il faut rester humble par rapport au pouvoir du parcours. Et si on propose 10 fois le même parcours, on n'aura jamais 10 fois la même course. Et c'est ça qui est intéressant dans le cyclisme.
Et est-ce que tu penses que c'était à cause des oreillettes et des tactiques de course qui rendaient l'étape un peu plus verrouillée?
Si on reprend cette étape de Quimper en exemple, dans cette année-là, on avait prévu une grosse étape de pavé en fin de première semaine. Et je pense que le fait d'avoir mis cette grosse étape de pavé en fin de semaine avait vraiment bloqué la course. Parce que tout le monde était en attente de savoir comment ça allait se passer cette étape. Et en fin de compte, pendant quasiment 8-9 étapes, on n'avait quasiment rien vu, quoi. Et c'était un peu frustrant, mais c'est comme ça. Bon, après, d'un autre côté, j'ai quand même l'impression que depuis 2-3 ans, les coureurs cyclistes pratiquent le vélo autrement. Et on a quand même un cyclisme beaucoup plus flamboyant en ce moment, avec des coureurs comme Alaphilippe, avec des coureurs comme Van Der Poel, Van Aert, Hirschi, qui sont plutôt portés sur l'attaque. Et ça fait du bien à notre sport.
Et donc, toi, pendant la course, qu'est-ce que tu fais? Une fois que le tracé est écrit, quel est ton rôle pendant les 3 semaines du tour?
Alors, mon rôle, alors déjà, ma position en course, c'est je suis juste derrière le peloton, dans la première voiture rouge. Je suis en présence du speaker Radio Tour, celui qui annonce tous les écarts et les compositions de groupe, etc., tout ce qui se passe en course. Et je suis avec le président des arbitres, le président du jury de l'UCI. Donc, on est dans cette voiture. Et moi, je vais surtout faire en sorte que les règles de circulation en course soient bien respectées. Donc, les distances que les motos télé, les motos photographes, les voitures invitées respectent les bonnes distances par rapport aux coureurs. Je vais faire en sorte que la circulation autour des coureurs se passe pour le mieux. Et puis, lorsqu'il y a des moments très, très chauds, notamment soit des grèves, des manifestations, je ne sais pas, un passage à niveau qui se ferme, une inverse de grêle dans l'Isran. C'est à moi de prendre la décision d'arrêter ou pas la course, quoi.
Et donc, est-ce que ça avait été le cas pour l'étape où Alaphilippe perdait le maillot jaune il y a 2 ans?
Voilà, c'est à ce moment-là, qu'on était j'étais en relation avec plusieurs personnes, notamment avec Christian Prudhomme, et puis qu'à un moment donné, il faut prendre une décision et dire stop, on n'y arrivera pas et on est obligé d'arrêter la course. Ça m'est déjà arrivé aussi sur l'étape à 8, où on a eu une énorme chute. Ça m'est arrivé sur des manifestations aussi, ouais, il y a toujours un peu d'action. Toujours, c'est jamais vraiment plat, quoi. Et c'est souvent des moments très intenses, quoi.
Et ça, c'est quelque chose que tu arrives à préparer à l'avance?
Ouais, si on veut dire que c'est voilà, il y a des gens qui aimeraient qu'on écrive tous les scénarios et puis qu'on ait un manuel à lire, mais sauf que le problème, c'est que cette décision, elle doit se prendre dans le moment très rapidement. Et quelque part, c'est juste une question, j'ai envie de dire, entre parenthèses, d'expérience, et qu'on acquiert au fur et à mesure, à force de faire énormément de courses. Et bah, c'est vrai que voilà, après chaque situation, bah, il faut analyser la chose et puis voir ce qu'on aurait pu faire de mieux ou pas. Hein. Et puis après, il faut avoir quand même un esprit, j'ai envie de dire, de décision, parce qu'il ne faut pas hésiter. Alors après, on peut se tromper, hein, parce que quand on prend une décision comme ça et qu'on n'a pas beaucoup de temps de réflexion, mais quand je dis pas beaucoup de temps de réflexion, des fois, c'est une petite dizaine de secondes, hein,
Ah, bien sûr.
maximum, quoi. Et ça peut être très, très, très court. Ben voilà, il faut assumer ensuite.
Et ça me fait penser, ces décisions très courtes et assez importantes aussi, à quelque chose d'assez nouveau dans le vélo, que sont les commotions cérébrales et les chutes avec des coureurs qui, souvent, en fait, peuvent montrer des signes de troubles de cognitifs. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas trop vu. Bah, l'exemple de Romain Bardet sur le tour dernier, de coureurs qui sont arrêtés par un médecin. Déjà, est-ce que ces décisions-là sont prises par une autre entité que la course? C'est l'UCI?
Bah ça, c'est le médecin de la course ou les dirigeants d'une équipe, du moins les dirigeants, directeurs sportifs d'une équipe, mais c'est surtout dédié au staff médical du Tour. Mais c'est vrai que bah, dans le Tour de France ou dans toutes les courses de vélo, on n'est pas comme dans les autres sports. Hein. L'arbitre n'arrive pas sur le terrain, attention, j'arrête tout comme dans un match de rugby, et puis on se pose, on arrête le jeu, et puis on regarde ce qui se passe, et puis on reprendra dans 2, 3 minutes. Non, en vélo, ben, ça continue d'avancer. Et c'est pas dans l'état d'esprit des coureurs d'attendre. Et lorsqu'ils se préparent pour une course à étapes ou quelque chose comme ça, ou une course importante, ils n'ont qu'une volonté, c'est de repartir le plus vite possible et de faire un état des lieux en étant reparti. Et là, c'est vrai que ben, ces dernières expériences montrent quelque part, il faudrait quand même prendre le temps d'examiner le corps qui a chuté, mais c'est pas tout à fait dans l'état d'esprit du vélo pour l'instant, quoi. Mais ça, je pense qu'il va y avoir des avancées parce que ça peut être dramatique si on n'est pas tout à fait conscient et qu'on commence à descendre une belle descente et qu'on loupe un virage. C'est vrai que ça peut être catastrophique. Mais c'est vrai que les coureurs sont tellement conditionnés par le temps, le classement général. Ils n'ont pas envie d'attendre que le médecin lui pose 3 questions et pour savoir s'il est en état de repartir. Parce que après, ça peut être un Tour de France terminé, quoi.
Moi, je peux partager l'expérience d'une autre de mes passions qui est le football américain et qui connaît malheureusement trop bien le sujet des commotions cérébrales depuis maintenant 10-15 ans. Et en fait, ce qu'ils ont fait en NFL, c'est qu'ils ont un neurologue indépendant qui est dans les tribunes et qui peut demander à ce qu'un joueur soit sorti du terrain après avoir vu le replay ou après avoir vu des signes de commotion, c'est-à-dire qui court pas droit, qui met du temps à se relever. Ça, c'est quelque chose d'assez important et qui peut, a posteriori, stopper le joueur de revenir. Parce que les joueurs, en effet, bah, c'est comme les cyclistes, naturellement, ils veulent revenir sur le terrain. Enfin, c'est pas la question se pose pas là-dessus.
Mais clairement aussi, sur une course de vélo, on peut très bien avoir la course étalée sur 20-30 minutes, notamment en montagne. Il n'y a pas des caméras partout, il n'y a pas des médecins partout.
Bien sûr.
Et voilà, et qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors oui, c'est toujours plus marquant lorsqu'on a la caméra sous les yeux, mais le même fait peut se produire 3 minutes derrière la caméra et les effets
Bien sûr.
seront toujours aussi importants. Hein. Il ne faut pas regarder que le côté médiatique. De ce qu'on voit, quoi.
Je voulais aussi parler du Tour de France féminin. Est-ce que c'est toi qui t'en occuperas? C'est encore un projet? Est-ce qu'on a la date officielle pour 2022?
Non, alors voilà, ça, comme on commence à travailler dessus, je pense que c'est quelque chose qui va prendre une ampleur importante et rapidement. Et clairement, ce ne sera pas moi qui m'en occuperai. Ce serait quand même beaucoup trop de travail d'enchaîner les deux. Mais ce sera fait avec attention. Et je pense que ça va prendre une ampleur très rapidement. Je suis très confiant pour l'avenir.
Et du coup, très rapidement, c'est à quel horizon?
Bon, on a parlé de 2022. Hein.
Tu confirmes? Tu
Non, ben
affirmes?
non, je ne confirme pas vraiment. J'ai pas les dates en tête, mais ouais. Voilà. C'était déjà dans les tuyaux quelque part. Et puis cette pandémie, changement de date des JO, ça nous a quand même pas mal perturbé.
On n'en sait pas plus sur le nombre de jours de la course, la date avant,
Ouais,
pendant, après?
il va falloir patienter, on communiquera très vite.
Très vite. Ok, bon. On prend
Très
rendez-vous.
vite, pendant le tour.
Pendant le tour 2021, ça va être communiqué?
Ouais.
Super, on a hâte. Tu fais aussi partie de la Ligue nationale de cyclisme comme représentant des courses sportives. Est-ce que tu peux nous décrire les objectifs de cette instance?
Oui, bah, la Ligue nationale de cyclisme, elle s'occupe de toutes les courses professionnelles, sur tous les aspects, hein, que ce soit l'organisation, les salariés dans le monde professionnel, etc. Et puis moi, je suis représentant des organisateurs et je suis entre autres le président du ROC, c'est le Rassemblement des organisateurs de courses cyclistes. Et c'est une amicale en fin de compte qui rassemble la totalité des courses professionnelles et une centaine de courses amateurs. Et voilà, donc dans cette amicale, on échange autour des problématiques des organisateurs. Alors, par exemple, les coûts de sécurité, comment s'adapter à la pandémie, comment mieux se vendre par rapport aux équipes. On a quand même beaucoup, beaucoup de sujets. Et quelque part, je les représente à la Ligue. Et on a des échanges à la Ligue avec les représentants des coureurs, représentants des équipes et en même temps des représentants de la fédération.
Alors j'imagine que les problématiques des organisateurs de courses, on va dire professionnels, mais non ASO, sont quand même bien différentes des problématiques de l'organisation du Tour de France. Quels vont être, eux, leurs problèmes, spécifiques?
Oui, clairement. Alors, c'est vrai que c'est ça, c'est un des grands paradoxes du monde cycliste, c'est qu'il y a très peu d'organisateurs professionnels. Et une grande majorité des courses sont organisées par des bénévoles et qui se démènent toute l'année pour aller chercher de l'argent, pour organiser dans les meilleures conditions. Et tout ça tout en étant bénévole. Et ça, c'est quand même assez remarquable. Et ces dernières années, on leur a mené la vie dure. Et malgré tout, ils sont toujours là. Et ouais, moi, je les admire. Je les admire vraiment.
Tu dis qu'on leur a mené la vie dure. Qu'est-ce qui, par exemple, a été plus dur pour eux ces dernières années?
Bah, ces dernières années, ça a été vraiment le fait que le World Tour est arrivé et que dans le cyclisme, c'est extrêmement dur d'exister en dehors du World Tour. Ça, c'était déjà un des vrais problèmes majeurs. Les équipes sont hyper focalisées sur le World Tour. Et puis après, sur les échelons en dessous, ben, il y a quand même beaucoup moins d'importance. Alors, quelques organisateurs s'en sortent très bien, mais on a quand même beaucoup d'organisateurs qui ont vu leur liste d'engagés, le niveau de leur liste d'engagés vraiment baisser. Et ça, c'est dommageable. Alors, ça, c'est un des problèmes importants. Et puis, le deuxième, c'est, j'ai envie de dire, les coûts de sécurité. Ça va bientôt faire, je pense, 4 ou 5 ans où nos coûts de sécurité, lorsqu'on fait venir de la police ou de la gendarmerie, augmentent entre 20 et 30% chaque année. Et ben, à terme, ça pourrait mettre quand même en péril, je pense, les organisations. Et c'est vrai on le perçoit d'une façon assez négative, cette augmentation, parce que quelque part, on est un sport qui coûte pas cher à la collectivité. On n'a pas de stade, on n'a pas de piscine, on n'a pas de voilà, on dépasse pas énormément d'argent pour le cyclisme, d'un point de vue de la collectivité. Et le fait qu'on subisse ces hausses de tarifs en sécurité, ça nous pose quand même des problèmes.
Et c'est expliqué par quoi ces hausses de tarifs? C'est les mairies qui veulent rentabiliser ça ou quel est le...
Non, c'est au niveau de la police et gendarmerie, c'est les forces de l'ordre qui font payer leurs prestations de plus en plus cher.
Et ça, depuis combien de temps?
Oh, ça va faire 5-6 ans maintenant. Les années passent vite. Hein. Les années passent vite, mais c'est vrai que c'est souvent un vrai problème. Alors après, on parle toujours un peu de crise. C'est pas toujours facile d'aller chercher des partenariats, mais en quelque part, ils arrivent à s'en sortir. Mais quelque part, en ce moment, eh bien, il faut toujours faire en ayant un peu moins de recettes, quoi. Ça, c'est compliqué.
Parce que côté revenu, ça reste 100% partenariat ?
Ouais, j'ai envie de dire, c'est assez stable, mais vu que les dépenses sont plus importantes, ben voilà, il faut faire avec moins. Quoi.
Et qu'est-ce qui pourrait être fait pour justement augmenter les revenus et compenser cette hausse des coûts ?
Alors, peut-être qu'il faut essayer de revoir le modèle d'organisation. Il faut peut-être, y a peut-être des choses à changer, hein, ça, c'est clair, mais... nous, on est resté quand même en France sur un modèle où on organise dans chaque région on organise notre course professionnelle, mais peut-être qu'il faut voir à agrandir le cercle, quoi. Aller un peu plus loin, quoi, parce que peut-être on a un petit peu trop d'épreuves, je ne sais pas, et qu'il faudrait peut-être plutôt faire un peu plus de qualité que de quantité, mais ça c'est à voir sur le long terme, quoi. Pour l'instant, on est bien content d'avoir toutes ces courses. Et puis, avec ce qui se passe en ce moment, on se rend bien compte que, heureusement, il y a les pays piliers du cyclisme qui sont là pour faire vivre tout le cyclisme, et dont la France est le premier.
Oui, bien sûr, on l'a vu avec la participation sur des épreuves comme l'Étoile de Bessèges, les boucles de Romardèche, avec une start list qui était quand même impressionnante.
Oui. Et ça, c'était comme ça avant la mondialisation. Et là, le fait qu'il y ait eu cette pandémie, ben, on revient aux vraies valeurs, quoi.
Et du coup, tu sais si ces épreuves ont profité des coureurs, du calibre des coureurs qui étaient là pour augmenter leurs revenus? Cette année, ça a été particulier ou au contraire
c'est... Mais non, parce que c'est des accords qui sont sur plusieurs années. Il ne faut pas oublier que, oui, on a eu plus de meilleurs coureurs. Mais par contre, on a souvent été limité... pour accueillir le public. Et ce que cherchent les partenaires en général lorsqu'ils viennent dans une épreuve, bah, c'est de toucher du public. Donc, alors, c'est quelque part, les plateaux ont compensé la perte de public.
Et la retransmission, je pense avec Internet qui rabat quand même les cartes et la possibilité de retransmettre en fait, à n'importe quelle course et non... Autant de courses, il n'y a plus de limite sur le nombre de télés qui peuvent diffuser. Est-ce que ça ne permet pas aussi peut-être d'explorer des nouvelles pistes de revenus?
Oui, alors après, la télé, c'est quand même un débat quand même assez délicat parce que en général, les organisateurs sont obligés de payer la production. Et sur une course à étapes de 4 jours, il va falloir compter entre 60 et 70 000, et 80 000 euros par jour pour pouvoir diffuser l'étape. Et ça, ce n'est pas facile, si facile que ça à trouver dans les budgets actuels. Donc oui, tout le monde aimerait être télévisé, tout le monde aimerait être télévisé, mais après, il faut être capable de subvenir au coût de la production.
Et donc, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres grands événements qui se créeront en Europe et en France?
Dans le cyclisme?
Oui.
Ouais, non, honnêtement, je pense que on va plus aller vers une concentration des événements qu'un développement des événements. C'est mon point de vue, quoi. Je pense que le calendrier est quand même sacrément chargé et voire saturé. Et c'est extrêmement dur de trouver un créneau pour créer de nouvelles épreuves. Alors, quelques-unes ont bien réussi ces dernières années. Je pense pas, notamment Strade des Boulanquiers.
C'est ce que tout le monde cite en général. Comme la course qui a réussi.
Oui, c'est ça, c'est une vraie réussite. Mais je ne pense pas que ce soit on retrouvera ça régulièrement.
Et qu'est-ce que tu penses des courses à étapes World Tour dans les pays, on va dire, plus exotiques, Émirats Arabes Unis, Chine?
Bah, je pense que le cyclisme suit le mouvement des autres sports. Il y a des fois besoin d'aller se financer un peu. Et c'est clair que dans ces pays-là, on ne trouvera pas des centaines et des milliers de pratiquants.
Et est-ce que l'intérêt de ces pays, peut-être plus la Chine, se développe? Est-ce qu'on a vu un impact sur, par exemple, les audiences du Tour de France?
Oula, je ne suis pas assez perspicace pour répondre à cette question.
Ok, ça sera pour quelqu'un d'autre. Je me demande ça. Je sais c'est un peu l'Eldorado pour beaucoup de sports. Je pense au basket, la NBA, le foot aussi, qui ont des académies en Chine pour attirer des spectateurs chinois, voire même la Ligue 1 qui a des matchs à des horaires spécifiques pour le public chinois en début d'après-midi.
D'accord.
Eh ben écoute, moi, c'est à peu près tous les points que je voulais voir avec toi. Peut-être la question de la fin, avec le tour que tu nous as préparé pour cette année, quel serait ton favori?
Alors, je pense déjà qu'on devrait vivre un grand début de Tour de France. On devrait avoir une énorme bagarre entre Van Der Poel, Van Aert, Sagan, Alaphilippe sur les arrivées en puncheur en Bretagne. Il va y avoir un chrono assez rapide pour redistribuer les cartes. Et quelque part, j'ai l'impression que les grimpeurs vont arriver avec pas mal de retard en montagne. Et puis bah, derrière, il va falloir rattraper ce retard. Donc je pense qu'on va avoir un tour assez dynamique. Assez dynamique. Et je ne sais pas si la tendance de l'an passé va continuer, quoi. C'est-à-dire avec beaucoup de jeunes en tête de classement. On va voir, on va voir. Le petit bémol, je n'ai pas l'impression qu'on ait vraiment de Français capables de jouer le général. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça.
Et si tu devais dire le premier français au général?
Oh là là. Il faut se lancer. Bon, je pense qu'un voilà, un Godu pourrait arriver à faire des choses. Bon, il y a quand même deux contre-la-montre assez longs. Ça ne va pas être si simple. Et puis autrement, je crois qu'il faut parier sur une valeur sûre, peut-être. Alaphilippe, il pourrait peut-être changer son fusil d'épaule et pourquoi pas tenter un classement général sur le tour.
Ah, c'est intéressant ça. Bah Thierry, écoute, merci beaucoup, c'était super intéressant. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin, quelque chose que tu voulais rajouter?
Bon, bah, je pense, oui, je vais quand même rajouter quelque chose. Ouais, voilà, on a une nouvelle génération qui est enthousiasmante et bah, j'espère qu'ils vont continuer à nous faire vivre des belles courses et que lorsque les coureurs réalisent des belles épreuves, bah, ça récompense les organisateurs et ça, c'est important.
Super. Bah, Thierry, merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt.
Bonne fin de soirée.
Merci à tous pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, bah n'hésitez pas à le partager à vos amis fans de vélo, il y a des grandes chances que ça leur plaise aussi. Merci encore et à dans 2 semaines pour le prochain épisode de L'Échappée.